Gravity had a good run, but it's time to feel the weightlessness of the Brooks Glycerin 21. These running shoes feature nitrogen-infused DNA Loft V3 cushioning. Brooks has even magnified the plushness to elevate the softness to new levels. And if you want extra support, find these same features in the Brooks Glycerin GTS 21. Learn more and shop now at brooksrunning.com. That's brooksrunning.com.
This episode is brought to you by Amazon Prime. You know Amazon Prime is not just a shipping subscription, right? It's got everything, including streaming TV and movies on Prime Video. And of course, Prime's fast, free shipping. Go from watching your favorite shows to getting your favorite things. Whatever you're into, it's on Prime. Visit amazon.com/prime to get more out of whatever you're into.
L'affaire Malgouir, meurtre dans le jardin préféré des Français, épisode 1. Chère auditrice, cher auditeur, quelle place a l'argent dans votre vie? Est-ce que vous y pensez souvent? Ou est-ce que vous n'en avez rien à faire? Ou au contraire, est-ce un but pour vous d'en amasser le plus possible? Peut-être même est-ce l'un de vos rêves secrets d'être millionnaire? Alors maintenant, imaginez, si ça vous arrivait, qu'en feriez-vous? Est-ce que vous le partageriez avec vos proches, ce nouvel argent? Cette fortune pourrait-elle vous faire perdre la tête? Dans cette nouvelle saison de Homicide, voici donc l'histoire d'un couple devenu riche, au point d'en perdre les pédales. Quand deux cambrioleurs entrent par effraction sur l'immense propriété de Daniel et Françoise Malgouir, le mari tue l'un d'eux et fait fuir l'autre. Pas d'argent volé. Ouf! Pendant l'audition, les époux dénoncent des profiteurs venus s'en prendre à leur argent. Mais rapidement, les enquêteurs ont une autre théorie. Et dans cette affaire, vous allez le voir, tous les personnages ont un rapport très particulier à l'argent. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Pour venir chez les Malgouir, vous devez emprunter l'autoroute A75, puis prendre la sortie numéro 62. La propriété se trouve juste entre Béziers et Pézenas, à une vingtaine de kilomètres seulement de la côte méditerranéenne. Voilà, après la sortie, vous n'êtes plus qu'à 500 mètres. Et le voici qui se dresse devant vous. Vous ne pouvez pas le rater. Ce fameux jardin, le jardin Saint-Adrien. 4 hectares de verdure aménagés sur une ancienne carrière de pierre. À l'époque où Daniel a acheté cet amas de cailloux avec son épouse Françoise, il n'y avait rien. Pas un arbre, pas un cours d'eau. Il n'y avait qu'un rêve à construire. Alors ils ont travaillé dur, les Malgouir. Ils ont fait dormir leurs enfants, Olivier et Aurélie, dans un mobilhome pendant 6 ans. Et avec eux. Le temps d'aménager ce qui n'était alors qu'une idée complètement fantasmagorique. Mari et femme ont travaillé main dans la main. Ils ont mis toute leur force dans ce projet. Françoise a planté des fleurs partout, des roses, des surfinias et de la valériane. Daniel, lui, s'est occupé de déverser des milliers de litres d'eau de rivière pour en faire des bassins et il a appris l'art de faire pousser des nénuphars. Aujourd'hui, des palmiers californiens donnent au jardin des allures d'oasis. C'est juste splendide. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Stéphane Bern.
Bravo, c'est formidable. Il est magnifique, votre jardin. Magnifique.
Ah oui, j'oubliais. Le jardin Saint-Adrien est devenu célèbre en 2013 quand l'émission du même nom lui a décerné le titre de jardin préféré des Français. Mais non, chers auditeurs, chères auditrices, vous ne vous êtes pas trompés de podcast. Vous écoutez bien Homicide. Ce qui signifie que quelqu'un va mourir ici. Oui, dans ce jardin qui ressemble tout bonnement au paradis. Nous sommes le 5 octobre 2017, 4 ans après l'émission qui a fait connaître Daniel et Françoise à tous les amateurs de paysages extraordinaires. Et en 4 ans, il y en a eu des visiteurs, des quarts entiers de touristes. Les affaires ont prospéré et il faut le dire, il n'y a jamais eu autant d'argent dans ce foyer. Il est loin, le temps de la vie de bohème en caravane où on douchait les enfants dans une bassine. Tiens d'ailleurs, quand on parle du loup, voilà Olivier qui appelle sa mère. Bon, aujourd'hui, il ne rentrerait plus dans la bassine, puisqu'il a 37 ans. Il est 19h48. Françoise décroche son téléphone. Elle se dit que son fils a peut-être oublié quelque chose. Il était à la maison il y a 2 heures seulement pour prendre un cours d'équitation avec Richard, leur ami qui élève des chevaux un peu plus loin dans le Gard. Mais non, Olivier l'appelle juste pour savoir ce qui lui ferait plaisir pour son anniversaire. Il est si prévenant, Olivier. Françoise l'adore et son fils l'adore en retour. Françoise et Olivier bavardent quelques minutes. Richard, oui, il est resté prendre l'apéro après la leçon d'équitation et il est parti un peu après 19h. Et là, Daniel et elle viennent de terminer le dîner. Bon, et puis elle raccroche. C'est là que Daniel se lève de table. Pourquoi il n'arrête pas d'aboyer le chien ? François se met à débarrasser la table et pendant ce temps, son mari sort dans le jardin avec une lampe torche. Il va voir ce qui se passe. Mais quelques instants plus tard, la femme entend un cri. C'est Daniel. Elle sort à son tour de la maison, longe la piscine et se retrouve nez à nez avec un homme cagoulé. Ça recommence. Il y a un an, le 13 septembre 2016, alors qu'elle se trouvait à Aubé, chez Richard justement, leur ami éleveur de chevaux et prof d'équitation, elle s'était déjà fait voler des bijoux et près de 5000 euros en liquide. Enfin, ça c'était ce qu'elle avait déclaré aux gendarmes, parce qu'en réalité, elle s'était fait voler entre 30 et 45 000 euros, de l'argent caché dans une boîte à biscuits, de l'argent qui n'était pas vraiment déclaré au fisc. Donc là, François se dit que c'est la même chose, qu'encore une fois, des gens en veulent à leur fortune. Elle n'a pas le temps de poursuivre plus loin sa réflexion, car l'homme la saisit par les épaules et lui assène de violents coups de poing à la tête et au visage. Il faut qu'il arrête, elle est très fragile depuis qu'elle est tombée de cheval il y a 5 mois. Mais l'homme à la cagoule continue. Il la frappe si fort qu'elle tombe sur un pot de fleurs. C'est là qu'elle voit son mari, lui aussi aux prises avec un homejacker encagoulé. Les deux voyous poussent les époux Malguir à l'intérieur de la maison. Celui qui s'occupe de Françoise la saisit par le col et lui ordonne le coffre. Elle lui répond qu'elle a déjà été cambriolée récemment et que de toute façon, ils n'ont pas de coffre ici. Mais l'agresseur ne plaisante pas. Il dit qu'il sait qu'ils ont un coffre. Il dit que si elle ne le lui donne pas, il va les tuer. Françoise, évidemment, est apeurée, mais elle est aussi très étonnée. Il a l'air bien renseigné, ce cambrioleur. Oui, c'est vrai, il y a un coffre-fort sur la propriété, mais personne ne le sait. Enfin, si, Aurélie, leur fille, sait qu'il existe, mais ne sait pas où il est. Son mari, Daniel, et leur fils, Olivier, eux connaissent la cachette du coffre, mais pas la combinaison. En vérité, la seule qui connaisse l'emplacement du coffre et qui puisse le déverrouiller, c'est Françoise. Le second voleur s'approche alors d'elle et la menace avec une arme à feu. Daniel la regarde et lui demande de les amener au coffre. Mais Françoise a la tête froide. Elle répète qu'ils n'ont plus d'argent ici, qu'ils se sont déjà fait cambrioler l'année dernière. Alors son mari revient à la charge. « Mais donne-leur l'argent de ton coffre, c'est ça qu'ils veulent !» Françoise est furieuse. Pourquoi son mari ne rentre pas dans son jeu ? Elle lui lance un regard plein de colère. Là, elle voit que le voleur qui tenait le pistolet a maintenant un gros rouleau de scotch à la main et il entreprend de les attacher. Alors, Françoise propose d'aller chercher les recettes de la semaine, environ 1000 euros qu'elle a rangés dans la salle à manger. Elle descend au salon, suivie par les deux agresseurs qui continuent à la frapper. C'est là que Daniel déclare qu'il a, lui aussi, 1000 euros à l'étage dans leur chambre. Ah oui ? Françoise ignorait l'existence de cet argent. Décidément, elle va de surprise en surprise dans ce homejacking. Daniel monte. Le voleur qui s'occupait initialement de lui délaisse Françoise et monte aussi. Peu de temps après, il y a un coup de feu. Puis plus rien. Silence. Françoise et son cambrioleur se regardent. Qui a tiré ? Françoise sent que l'homme à la cagoule panique. Il l'attire dans la cuisine, puis dehors vers l'abri de la piscine. Il pointe l'arme sur son ventre, mais elle met ses deux mains devant le canon et tente d'attraper l'arme. Elle entend Daniel arriver. Il a son fusil à la main. Le malfaiteur qui la tenait encore lâche Françoise et s'enfuit. Il part d'abord du mauvais côté. Elle le voit repasser et filer enfin vers la sortie. Celui qui est là-haut ne redescendra plus, lui dit Daniel. Françoise déclenche l'alarme, saisit le téléphone de l'entreprise et appelle son fils. Il est 20h24. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après.
This episode is brought to you by Amazon Prime. You know Amazon Prime is not just a shipping subscription, right? It's got everything, including streaming TV and movies on Prime Video. And of course, Prime's fast, free shipping. Go from watching your favorite shows to getting your favorite things. Whatever you're into, it's on Prime. Visit amazon.com/prime to get more out of whatever you're into.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Deux patrouilles de gendarmes de Pézenas arrivent quelques minutes plus tard. Ils découvrent une femme, la cinquantaine, petite blonde et mince et énergique, complètement en état de choc. Elle présente un gros hématome à l'œil droit. C'est Françoise. À côté d'elle, son mari Daniel, 10 ans de plus, brun, la peau marquée par le soleil. Il a des traces de sang sur le corps et sur le visage. Mais surtout, à l'entrée de la chambre à coucher, les gendarmes découvrent un cadavre. Il est entièrement vêtu de noir, seules ses baskets sont bleues. Et il porte encore sa cagoule. Il a une balle dans le thorax, il est mort sur le coup. À 21h30, Daniel Malgouir est placé en garde à vue. Les enquêteurs veulent savoir ce qui s'est passé. Alors, le mari raconte tout depuis le début. Le chien qui aboie, les deux hommes en noir qui les frappent, les cambrioleurs qui exigent beaucoup d'argent. Et puis, il explique qu'il a senti la situation dégénérer. Alors c'est pour ça, il a proposé d'aller chercher les 1000 euros qu'il avait à l'étage. Il est donc monté, suivi par son épouse, elle-même suivie par un des cambrioleurs qui lui braquait son arme sur la tempe. Ah bon ? Pourtant Françoise a bien dit qu'elle était restée au rez-de-chaussée et n'avait rien vu. Si, si, elle était là, assure Daniel Malgouir. Et puis, une fois dans la chambre, sous prétexte de chercher l'interrupteur, il s'est emparé de son fusil sur l'armoire et a fait feu. L'homme à la cagoule s'est effondré tout de suite. Vous voyez, c'était de la légitime défense, tout ça. Daniel Malgouir a fait ça pour protéger Françoise. Oui, mais alors Françoise, elle était en haut ou elle était en bas ? En haut, assure le mari. Ils étaient tous les deux, le cambrioleur et sa femme, dans l'encablure de la porte quand il a tiré. Mais c'est normal s'il y a des divergences de témoignages entre Françoise et Daniel. La pauvre, elle est encore toute secouée par son accident de cheval d'il y a 5 mois. Ça paraît un peu gros, cette excuse de la chute de cheval, non ? Mais Françoise est aussi d'accord. Depuis son accident, elle a des pertes de mémoire et des troubles neurologiques. Elle a vécu un gros traumatisme crânien. Alors oui, peut-être que c'est Daniel qui a raison. Peut-être qu'elle était à l'étage. Bon allez, va pour le traumatisme crânien. Mais en réalité, dans la version de Daniel, il y a un détail qui les chiffonne encore plus, les enquêteurs. Ils ont beau chercher à côté du corps du cambrioleur, derrière, dessous, il n'y a pas d'arme à feu sur cette scène de crime. Alors, la légitime défense, eh bien, ils y croient moyen. Mais alors, pourquoi tuer le cambrioleur si ni lui ni sa femme n'étaient en danger immédiat ? Et puis, qui était ce voleur d'ailleurs ? Le lendemain, vendredi 6 octobre 2017, il est 17h15 quand ça sonne chez Sandra Viers. Derrière la porte, un gendarme en tenue, deux personnes en civil et un homme qui porte un brassard orange. Quand elle les voit, la quarantenaire ressent d'abord une sorte de soulagement. Enfin, ils viennent lui dire où est son mari. Elle ne l'a plus vu depuis la veille. Il l'avait prévenu qu'il rentrerait tard, mais finalement, il n'est pas rentré du tout. Au fond, même si elle ne veut pas se l'avouer, Sandra comprend que quelque chose de grave est arrivé à son époux. Elle pense à ses deux filles, 12 et 13 ans, des ados. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir leur dire ? Sandra se tait et écoute ses porteurs de malheur qui sont à sa porte. Ils lui expliquent que c'est un cambriolage qui a mal tourné. Un cambriolage ? David s'est fait cambrioler ? Non, madame, vous ne comprenez pas. C'était votre mari, le cambrioleur. Le corps cagoulé est donc celui de David Viers, le mari de Sandra. Quand elle l'a rencontré, il y a 15 ans, elle était journaliste sportive à Lyon et lui était barman dans une discothèque. Ils sont tombés amoureux. 2 ans plus tard, ils se sont mariés. Puis, elle a abandonné sa carrière pour s'occuper de leur fille. C'est vrai qu'il ne roulait pas sur l'or. David avait monté plusieurs sociétés, mais ça n'avait jamais marché. D'ailleurs, ils étaient en train de monter un dossier de surendettement parce qu'ils avaient entre 300 et 500 000 euros de dettes. Alors, pour subvenir aux besoins de la famille, David Viers jouait au poker. Il avait même organisé une partie chez lui, à côté de Perpignan, 3 jours plus tôt, avec les joueurs habituels, Nicolas, Jean-Christophe et un autre David. Ah, et il y avait aussi un certain Richard. Sandra ne l'avait vu qu'une fois avant, dans un casino en Espagne, où ils avaient passé 2 jours. Derrière la porte de sa maison, Sandra est dévastée. Et surtout, elle ne comprend pas. David n'avait pas d'arme à feu. Tous les deux, ils sont contre les armes d'ailleurs. Comment en est-il venu à cambrioler cet endroit ? Et que s'est-il passé dans cette chambre ? David connaissait-il ce malgouir ? Alors que Sandra s'apprête à annoncer la mort de leur père à ses filles, alors que Françoise, en état de choc, fait examiner ses blessures par un médecin légiste, Daniel Malgouir, lui, fanfaronne. À son fils Olivier, qui a débarqué en courant après l'appel de sa mère, Daniel lance une phrase, comment dire, déstabilisante, dérangeante même. « T'inquiète, fils, c'est pas le premier !» Sous-entendu, c'est pas le premier gars que j'ai tué. Et plus tard en audition, Françoise confirmera. Oui, son époux lui a déjà assuré avoir tué quelqu'un lorsqu'il était plus jeune. Un homme qui avait tenté de séduire sa première femme, Thérèse. Il l'avait supprimée dans une montagne française, avait-il dit. Mais il assurera plus tard que c'était une plaisanterie. C'est quand même un peu bizarre ce genre de blague, non ? Et ça en dit long sur la personnalité insaisissable du propriétaire du jardin préféré des Français. Alors, qui est vraiment Daniel Malgouir ? Et puis, on l'avait presque oublié, qui est le second cambrioleur ? Vous le saurez en écoutant le 2e épisode de l'affaire Malgouir. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.